Michel se sont rencontrés.
C'était pas ta maison, hein, Gaétan.
J'aurais dit, ça me surprend pas que t'aies déménagé dans le bout de Québec. Mais c'est beau la nature là-bas. Je m'imagine que vous suivez comme moi aux nouvelles les reportages qui nous arrivent de l'Afghanistan, de l'Irak ces dernières semaines. L'effort de nos militaires pour donner au peuple afghan une liberté qu'il ne connaît pas parce qu'ils ont été conservés bien longtemps sous l'esclavage de l'oppression religieuse talibane. Cette semaine aussi, on entendait la libération d'otages coréens de foi chrétienne. Des gens qui ont été là, partagé leur foi, puis pendant je ne sais pas combien de jours ont été en otage. Le prédicateur a été assassiné tout de suite. D'autres sont morts, encore une fois, sous l'oppression des talibans. Et cette situation me rappelle constamment que la liberté d'expression que nous jouissons, les déplacements que nous pouvons faire librement, notre foi, la liberté d'exprimer notre foi que l'on jouit aujourd'hui, elle a été offerte à grand prix. Nous, on regarde à la télévision nos soldats, puis on est des spectateurs de nos militaires qui, eux, sont prêts à donner leur vie pour que nous puissions jouir de ces libertés fondamentales. Pour nous, on contribue à leurs efforts par nos prières, par nos marques de gratitude. Mais pour eux, il s'agit d'un engagement sacrificiel. Et il y a une différence entre contribuer puis s'engager sacrificiellement. Peut-être que vous avez déjà entendu cette petite histoire qui fait la différence entre contribution et sacrifice dans l'histoire d'une poule puis d'un porc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je vais vous la raconter une toute petite histoire. Un jour, une poule et un porc cherchaient à faire du bien. Ils veulent bien faire. La poule, le porc sont ensemble, ils veulent faire du bien, puis ils se promènent en ville. Et puis, arrivés près d'un restaurant, ils virent une enseigne qui disait « Aide demandée pour servir déjeuner avec œufs et bacon ». Hey, la poule puis le porc, ils voient ça. « Aide demandée, nous on veut servir, on va aller servir là dans ce restaurant ». Alors, la poule a dit au porc « C'est un endroit idéal pour servir ». Je leur donne mes œufs et ils me nourrissent. Ouais, dit le porc. Pour toi, ça te coûte seulement une contribution. Pour moi, c'est un sacrifice. Offrir du bacon sur la table. Différence entre contribution et sacrifice. La cause de l'Évangile me demande-t-elle une contribution ou un sacrifice? Cette semaine, je recevais les nouvelles de Pierre-Alain Lefrançois, qui nous rapportait un peu des résultats de son ministère en France cet été, puis il signait sa lettre avec ces mots-là, « pour sa cause ». Et je remercie Dieu pour cette petite phrase-là. Pierre-Alain manifeste un grand engagement pour la cause du Seigneur, tout comme les pionniers de l'Évangile qu'on présentait dimanche soir. Dans notre offrande d'action de grâce, on va soutenir Pierre-Alain Lefrançois dans son ministère. Les dimanches soirs, d'une semaine à l'autre, on est en train de présenter des petits DVD d'une vingtaine de minutes sur les pionniers de l'Évangile. Nous, on s'assoit ici le dimanche matin, puis on célèbre Dieu, puis il n'y a pas eu de policiers à la porte. Puis probablement que vos fenêtres de voiture ne seront pas cassées pendant que vous adorez le Seigneur. Mais au début du siècle dernier, c'était bien différent. Dimanche dernier, on entendait le pasteur à Val-d'Or, un an et quelque chose en prison. Savez-vous pourquoi? Partager l'Évangile sur le coin de la rue. Donner un traité. D'autres lieux de culte au Québec incendiés. Pourquoi? Parce que quelqu'un ouvrait la Bible et partageait la cause de l'Évangile. Et c'est certainement pour eux, c'était un engagement. En tout cas, les dimanches soirs, il y a ces petits DVD-là. Ce soir, c'est Élisée Beau. C'est ça, David?
Oui.
Élisée Beau. Un peu un de nos pionniers de l'Évangile au Québec. La cause de l'Évangile demande de notre part une contribution ou un engagement. Mais je pense que pour nous, la cause de l'Évangile demande le meilleur de nous-mêmes. Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à cause de l'amour de Dieu pour vous, d'offrir vos corps comme une contribution. » Non, c'est pas tout à fait ça. « Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, logique, vrai. » Voyez-vous, ce matin, Jésus nous regarde aussi du ciel et considère notre engagement pour sa cause. Il considère l'usage de notre temps, de nos talents, de nos offrandes comme des instruments qui sont importants pour démontrer notre engagement envers Dieu et envers son royaume. Et ce matin, nous allons tourner dans Luc chapitre 21. Nous allons lire les quatre premiers versets où Jésus considère les offrandes qui sont données au temple. Et j'aimerais, à travers ce petit passage, qu'on puisse retirer trois critères d'évaluation de nos offrandes de la part du Seigneur. Quand le Seigneur nous regarde, comment est-ce qu'il évalue nos offrandes? Prions Dieu d'abord. Seigneur, encore une fois, j'aime ouvrir ta parole. Et merci pour la grâce que tu me donnes de pouvoir enseigner systématiquement, chapitre après chapitre. Et que fois, il y a des passages que je ne sélectionnerai pas, tout simplement, par choix. Mais parce qu'on le fait de façon systématique, Seigneur, nous regardons ce qui t'intéresse, à la fréquence que ça t'intéresse, en regardant ta parole, tes enseignements, tes évangiles. Alors, encore une fois, Seigneur, ce matin, tu as quelque chose à me dire, à nous dire. Et Seigneur, je te prie que nos cœurs, nos oreilles soient attentives à ta voix, à toi. Afin, Seigneur, que nous puissions continuer de nous engager pour la cause de l'Évangile, pour ta personne, et que ce soit de nos parts des engagements, et pas simplement de simples contributions. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 21, les quatre premiers versets. Jésus, ayant levé les yeux, Jésus était dans le temple, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus est assis dans le temple. Le livre de Marc qui raconte cette même histoire dans Marc chapitre 12, verset 41. Jésus disait qu'il enseignait dans le temple, et à un moment donné, il s'est placé juste vis-à-vis du tronc et regardait combien la foule y mettait de l'argent. C'est sa dernière semaine. Il est dans le temple. Il enseigne. Et dans le parvis des femmes, il est assis là où il y a des troncs. Et Jésus considère. J'aimerais d'après, la première chose que j'aimerais qu'on retire, c'est qu'il considère le don et le donateur. Dans ce parvis des femmes, il y avait disposé contre le mur 13 troncs. Pas des troncs d'arbres, mais après ça, un tronc, c'était une urne, c'était 13 urnes en forme de trompette, dans lesquels les gens déposaient leurs pièces de monnaie, somme d'argent, pour l'entretien du temple, comme pour le soutien des sacrificateurs. Et puisque c'était des belles trompettes, des têtes cylindriques, c'est ça, où on mettait de l'argent, je sais pas si ça tournait comme ça, puis on mettait de l'argent, alors ça devait faire du bruit. L'argent, en frappant le métal, pouvait donner une très bonne indication de ce qui était versé. Souvenez que dans ce temps-là, ce n'était pas un billet de 20, un billet de 50, un billet de 100, ça ne fait pas de bruit quand ça tombe. Là. C'était des pièces de monnaie avec un poids en or, en argent, qui était donné. Alors, plus ça cognait fort, plus c'était lourd, plus ça avait de la valeur. Bien entendu, et les gens plaçaient leur offrande là-dedans. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'offrande silencieuse, puis il n'y avait pas d'enveloppe d'offrande dans laquelle on cache un peu l'argent qu'on met ou le chèque que l'on met pour le placer, c'était beaucoup plus ouvert que ça peut l'être aujourd'hui. Alors, l'argent, en frappant le métal, ça m'a donné l'indication de ce qui était donné. Alors, certains pouvaient laisser facilement voir la grandeur de leur générosité. Ça me fait penser à un texte que Jésus disait dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il disait « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. » Et là, il explique « Lors donc que tu fais ton aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans la synagogue. » Sonne pas de la trompette comme font les hypocrites dans les synagogues. Je ne sais pas si dans les synagogues, il y avait des trompettes, mais ça faisait drôle. Ces troncs-là avaient une forme de trompette, puis ça fait du bruit. Alors, il dit, quand tu donnes ton aumône à Dieu, ben essaye pas de faire ding, 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 pour dire, regarde, je donne. Ne sois pas hypocrite. Tu donnes au Seigneur. Jésus voit les riches qui donnaient dans l'offrande. Et Marc précise même que plusieurs riches mettaient beaucoup. Et c'était bien. Le Seigneur certainement approuvait la générosité des riches. Mais il ne voit pas seulement le donateur et le donateur tout court, ou son don tout court. Il voit le donateur et le don. Et dans le texte, on en a un deuxième exemple. Soudainement, il voit aussi une pauvre veuve et il voit en même temps son offrande. Jésus remarque cette veuve. Déjà, elle est handicapée financièrement. Elle est veuve. Et encore pire, elle est une pauvre veuve. Elle est doublement dépossédée. Une personne qui est dans le temple pour adorer et qui est déjà sans ressources. Et Luc fait exprès pour employer un mot qui se retrouve seulement une fois dans le Nouveau Testament, pénicrane. Le mot général pour pauvreté, pour pauvre, c'est ptouros. Puis là, il en emploie une quarantaine de fois dans la Bible, le mot pauvre. Là. Mais là, Luc fait attention pour employer un autre mot, pénicrane, qui va utiliser seulement une fois dans la Bible. Et c'est une pauvreté extrême. Il voit une veuve extrêmement pauvre. Ça parle de ce mot-là nous signifie une pauvreté telle que la survie même est une lutte constante. Elle a un besoin constant de quémander pour survivre. Elle n'a pas des grands comptes en banque. Alors, cette pauvre veuve est clairement identifiée, non pas comme celle qui devrait donner, mais comme celle qui nécessite un don plutôt que d'en offrir un. Personne n'aurait réprimandé cette pauvre veuve si elle n'avait rien donné pour la cause de Dieu. Et non seulement Jésus voit cette veuve-là très nécessiteuse, mais il la voit donner son offrande. Il la voit donner deux sous. Encore une fois, ce petit mot grec-là, c'est la pièce la plus petite en Israël. Ces deux sous-là correspondaient à peu près à un quart d'heure de travail, 15 minutes d'ouvrage pendant une journée. Très peu. Et elle en a deux. Et elle donne. Elle donne les deux sous et Jésus voit les deux sous. Il considère non seulement le donateur, il considère le don. Jésus regarde qui donne et Jésus regarde combien la personne donne. Et les gens d'hier, comme les gens d'aujourd'hui, on a souvent la tendance à regarder beaucoup plus la grandeur du don que la personne qui donne. Et j'aimerais vous rassurer ce matin que Jésus ne considère pas seulement le don, mais il considère le donateur. En réalité, il considère davantage la proportion que la portion elle-même. Jésus disait dans Luc chapitre 12, verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Première chose que j'aimerais qu'on remarque dans ce texte-là, Jésus ne regarde pas juste le don, et Jésus ne regarde pas juste le donateur. Il regarde ensemble, don et donateur. Il regarde proportion, beaucoup plus que portion elle-même. Deuxième chose que je vois, critère que je vois dans l'évaluation de nos offrandes de la part de Dieu, Jésus considère le sacrifice. Jésus a comparé le sacrifice des uns par rapport aux autres. Il nous dit dans le texte, la pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Elle a mis plus? Elle a mis deux petites pièces. Est-ce qu'il a considéré juste le don? Non, il a considéré le don et le donateur. Il a considéré le sacrifice que ça l'exigeait de la part de la veuve. Elle avait donné plus que tous les autres. Elle avait offert un sacrifice plus grand. Cette pauvre veuve-là, elle avait deux pièces. Ça aurait été un geste absolument merveilleux d'en avoir donné une. Elle en avait juste deux et elle a donné les deux pièces. Elle en avait tellement peu qu'elle a tout donné. Vous savez, Jésus a enseigné en quelque part, précisément dans Luc chapitre 3, verset 11, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Pourtant, la veuve, elle n'avait pas deux tuniques, mais elle avait deux pièces. Elle n'a même pas donné juste une, elle a donné les deux. Son sacrifice était certainement bien supérieur aux autres. Vous savez, il y avait un prédicateur un jour qui essayait d'appliquer ce principe-là avec un croyant. Si tu as deux, tu partages un. C'est ce que Dieu aimerait. Alors, le prédicateur demande au croyant, si tu avais deux maisons, serais-tu prêt à en offrir une pour le service du Seigneur? Et le croyant dit, oh oui, certain. Eh, c'est bien. Il dit, si tu avais deux voitures, serais-tu prêt à en partager une pour le service du Seigneur? Puis le croyant dit, oh oui, certain. Alors il dit, si tu avais deux bicyclettes, serais-tu prêt? Wow! Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il dit, tu le sais que j'ai deux bicyclettes. Tant que ça touchait ce que les autres ont puis que j'ai pas, ah là, je suis prêt à partager. Ben, deux bicyclettes, ah ça, c'est dangereux, par exemple. Parce que si je regarde dans mon garage, j'en ai quatre. Alors là, c'est plus exigeant. La veuve a donné ce qu'elle avait. Et il faut bien qu'on comprenne nous-mêmes qu'il y a une différence entre un sacrifice et une contribution. La différence, d'abord, le coût. Un sacrifice, ça nous coûte quelque chose qui nous est cher. La contribution est un coût négligeable. Vite donné, vite oublié. Voulez-vous contribuer pour UNICEF? Ah, OK, je fais ça. Pour les maladies du cœur, OK. Faites une contribution. C'est bien différent d'un sacrifice. Un sacrifice implique un coût qui nous est cher. Donner nos restants à Dieu, ce n'est pas un sacrifice, c'est une contribution. Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Est-ce que c'est une contribution? C'est un sacrifice. Le sacrifice de Jésus pour nous. Ce n'est pas une contribution. La contribution versus le sacrifice, elle exige la considération. Quand je fais un sacrifice, je considère l'autre avant moi-même. Imaginez, des fois je vois ça dans une salle, un commercial, un petit garçon qui a un beau biscuit Oreo, quelque chose, puis... il voit sa petite amie en face à l'école, elle ouvre sa boîte à lunch, puis elle n'a pas de dessert. Puis là, il regarde sa belle barre Oreo, puis il voit l'autre, puis il fait une contribution. Il passe sa barre Oreo. C'est une contribution, ça? Non, c'est un sacrifice. Parce qu'il aime sa barre Oreo, lui aussi. Mais il va considérer l'autre avant lui-même. Il a sacrifié sa barre Oreo pour l'autre. La considération dans le sacrifice considère l'autre avant soi-même. Il s'appauvrit volontairement pour l'enrichissement de l'autre. Je trouve ça étonnant de constater que ce sont souvent les gens les plus démunis qui sont prêts à se priver de l'essentiel pour le besoin des autres. Je me rappelle quand notre jeunesse allait en Haïti ou en d'autres endroits, où des missionnaires viennent et nous parlent de la générosité des gens qui n'ont rien. Comment ils sont prêts à donner ce qui est absolument essentiel? Parce que vous êtes là, ils vous aiment, ils veulent exprimer leur gratitude et ils donnent de façon sacrificielle. Paul dit la même chose des Macédoniens dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 2. Il les vante. Il dit à propos de ces Macédoniens, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils étaient dans la grande épreuve de leur affliction. Ils avaient une joie débordante, mais il y avait une profonde pauvreté. Et ça leur produit une abondance de riches libéralités de leur part. Un sacrifice. Considère l'autre avant soi-même. Le sacrifice aussi est un choix délibéré. Une contribution, c'est exigé et c'est incontournable. Je contribue à recevoir un magazine, puis je paye. C'est exigé, c'est incontournable quand je parle d'une contribution. Le sacrifice, lui, exige un choix. Il exige une décision volontaire à prendre qui n'est pas obligatoire. Il y a un problème de voiture cette semaine, puis je l'ai fait réparer. Ça a coûté plus de 1 000 $. Ça coûte cher. C'était ni volontaire, ni contournable le fait de réparer la voiture. C'était très douloureux, mais savez-vous quoi? C'était pas un sacrifice. Elle n'avait pas le choix, ben. Vous voulez que ça roule. C'était pas une question de sacrifice. C'était une contribution à la prospérité du garage. Puis moi, que je puisse ressortir avec 4 roues qui avancent, puis que je peux me promener avec. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il la donne. Personne ne la prend de lui-même. Il la donne pour ses brebis. L'athlète se discipline et travaille fort avec son corps pour la victoire. C'est un sacrifice. C'est pas exigé. Le soldat risque sa vie pour servir son pays. Ça, c'est le sacrifice. Un sacrifice, contrairement à une contribution, exige un coût, une considération et un choix volontaire. Jésus considère le sacrifice dans nos offrandes. Et finalement, Jésus considère le cœur. Jésus a vu les deux pièces, mais il a vu au-delà des deux pièces de la veuve. Il a vu le cœur de la veuve. Si la veuve a tout donné, est-ce qu'elle pensait mourir le lendemain matin parce qu'elle n'avait plus rien? Non. La veuve a tout donné parce qu'elle avait confiance que Dieu pourvoirait à tous ses besoins. Et que Dieu prendrait soin des veuves, que Dieu prendrait soin des pauvres veuves. Alors, elle était prête à donner tout ce qu'elle avait parce qu'elle faisait confiance que Dieu pourvoirait ses besoins. Elle n'en avait pas assez pour elle-même, mais elle avait décidé de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sachant que quand je cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses dont j'ai besoin, Dieu va pourvoir. Jésus a vu son cœur. Jésus a vu dans son cœur qu'elle était riche envers Dieu, comme dit Luc 12, 21. Même si elle était pauvre ici-bas, elle ne s'inquiétait pas de sa vie, de ce qu'elle allait manger, ou de son corps, de quoi elle serait vêtue. Son premier souci était de chercher le royaume de Dieu. Et là où était son trésor, Dieu, là était aussi son cœur. Et Dieu a vu son cœur et a vu que son trésor était en Dieu plutôt qu'en elle-même. J'aime le texte qui dit, elle a donné de son nécessaire. Encore un mot qui a été difficile à traduire, qui a été difficile à traduire du grec. Littéralement, de son trop peu. Elle a donné de son manque, c'est le mot manquement qui est dans le grec. Elle a donné de son trop peu. Elle a parti de sa pauvreté pour donner. Elle a donné de son, à partir de son manque, elle a donné. La veuve a continué de reconnaître sa dépendance de Dieu tout en donnant tout ce qui lui restait. Elle comprenait les paroles de Jésus qui pouvaient dire « Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » J'aimerais que vous tourniez dans 1 Roi, au chapitre 17. Je trouve un bel exemple d'une autre veuve. 1 Roi, chapitre 17, dans votre Ancien Testament. C'est une veuve qui habitait à Sarepta et que Dieu a envoyé Élie pour être nourrie par elle. La veuve de Sarepta a vécu la même espérance que cette pauvre veuve-là avait dans le temple Élie avec la veuve de Sarepta. 1 Roi, chapitre 17, regardons le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots à Élie, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi, dites le mot s'il vous plaît, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras, lisez le mot s'il vous plaît, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Élie voulait manifester à cette pauvre veuve tellement d'égoïsme. Nourris-moi d'abord, après ça, tu t'occuperas de tes affaires, pauvre veuve, plutôt que ton fils. Pas ça. Mais Dieu d'abord. Sers Dieu d'abord, parce que je suis le représentant de Dieu, puis Dieu m'a envoyé vers toi. Et si tu places Dieu d'abord, tu manqueras de rien. Elle a cru ça. Et Dieu a honoré sa parole, ses principes, son engagement. Pour la veuve de Sarepta, et je peux vous garantir qu'elle fait la même chose pour la pauvre veuve qui a donné ses 2 sous dans le temple. 1 Timothée dit au chapitre 5, verset 5, en parlant des veuves, « Celle qui est véritablement veuve, elle met son espérance en Dieu, et Dieu prend soin de la veuve ainsi et de l'orphelin. » Alors Jésus voit le cœur de la veuve. Et Jésus voit aussi le cœur du riche. Le riche aussi a donné avec abondance. Il ne faudrait pas enlever. Dieu n'a pas condamné le riche ici, là. Il n'a rien dit de mal du riche. Le riche aussi a donné avec abondance et Dieu le reconnaît et Dieu l'apprécie. Mais dans l'évaluation de Jésus, son don représentait que le superflu de son cœur. Pour lui, il est parti, il a donné à partir de son trop-plein. Il a donné à partir de ce qui débordait ses besoins. La veuve, elle a donné à partir de ce qu'elle n'avait pas. Elle a donné à partir de sa pauvreté. Pour le riche, c'était moi d'abord, Dieu ensuite. Les prémices pour moi, ce qui reste à la fin pour Dieu. Ça, c'était le principe du riche. Faisons attention de ne pas le condamner trop vite, là. Parce que si on condamne notre riche trop vite, de commencer à offrir au Seigneur ce qui déborde plutôt que ce qui commence, peut-être qu'on se trouverait vite inclus dans notre propre standard. Peut-être qu'on pourrait se condamner nous-mêmes en utilisant ces standards-là pour nous-mêmes. Le riche, en réalité, il a fait la charité. La veuve, elle a fait un investissement. Le riche a fait sa BA de la journée, sa bonne action. La veuve a offert un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et Dieu a apprécié l'œuvre de la veuve en particulier. Parce que, selon 2 Corinthiens 9, 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Jésus considère le don, le donateur, le sacrifice et le cœur. Jésus considère aussi nos offrandes. Il considère mon offrande. Et pour moi, comme pour vous, la question se soulève rapidement. À qui est-ce que nous nous identifions dans ce récit? Et soyez sûrs que vivre à Québec, en Amérique du Nord, avec tout ce que nous avons, il n'y a pas grand monde ici qui doit s'identifier avec la veuve. Je pense qu'on doit tous s'identifier avec le riche. Dieu nous a beaucoup confié et il regarde à la fois notre situation financière et à la fois notre offrande pour le service. Il regarde le don et le donateur. J'ai bien dit que le Seigneur le voit. Que vous soyez sûr que c'est moi, je ne le vois pas. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que vous donnez dans l'offrande. Depuis que je suis pasteur, il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est de compter des offrandes. Je ne veux pas avoir à identifier un visage avec un montant d'argent. Ah, toi, tu donnes, je vais être proche de toi. Ah, toi, tu ne donnes pas souvent, tu ne donnes pas beaucoup, ben là, je ne m'occuperai pas de toi. Non, non, non. Moi, je ne regarde pas les offrandes. Dieu les voit, par exemple. Dieu regarde le don et les donateurs. Et il me regarde. Et il vous regarde. Ma deuxième question, c'est... La première était simple, à qui je m'identifie? Très certainement aux riches. Ma deuxième question, par quel bout est-ce que vous considérez vos offrandes à Dieu? Est-ce que vos offrandes sont l'expression des prémices de votre revenu? Ou l'expression des restants inutilisés? Quand il en reste. Inutilisé. Parce que quand on donne juste ce qui reste inutilisé, habituellement, il n'en reste pas beaucoup. Quand il en reste. Par où je commence quand je pense aux offrandes pour l'œuvre de Dieu, pour l'agrandissement du royaume de Dieu, pour l'évangélisation du monde, pour le soutien des ouvriers, pour l'entretien des... Par où je commence? Je commence par, s'il m'en reste, je vais donner... Où je commence par « Voici ce que Dieu s'attend de moi, qui a les prémices de mon revenu qui lui appartient. » Et Jésus est tellement clair, la Bible est tellement claire, tout le long, « Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment. » Mais il faut faire le choix au début plutôt qu'à la fin. C'est le principe invariable du ciel. Comme il dit avec la veuve de Sarepta, « D'abord et ensuite, tu en auras assez pour toi-même. » On est dans un pays riche, on est toute une belle gang de beaux riches et on se plaint tellement de ne pas avoir assez. Le problème
problème, c'est pas qu'on a pas assez. Souvent, c'est pas vraiment, on n'a pas placé le bon ordre dans les choses. Le d'abord et l'ensuite. J'aime un texte dans, encore dans l'Ancien Testament, Chronique, chapitre 21, verset 22 à 25, c'est David. David, à la fin de sa vie, et puis il arrive, il a fait le dénombrement, puis là, Dieu envoie un jugement, puis là, il voit l'ange de la mort qui tue des gens, puis il va jusqu'au seuil d'un monsieur qui s'appelle Ornan, je pense. Et là, il dit, je vais faire un sacrifice à Dieu pour arrêter la condamnation, pour arrêter la mort. Et là, il va sur l'endroit où Ornan plaçait son vignoble, j'imagine, sur une plateforme. Puis il dit, je veux offrir ici même un sacrifice à l'Éternel. Fait que Ornan, il dit, il n'y a pas de problème, prends l'offrande que tu veux, prends un agneau, prends le bois que tu veux, puis offre ce que tu veux, c'est correct. Et David dit, non, 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 non. J'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'appartient pas. Puis j'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Il y avait le bon principe. Je vais offrir à l'Éternel un sacrifice qui va me coûter quelque chose. Et Dieu a honoré son sacrifice. Hein, Chronique, chapitre 21. Par quel bout alors considérez-vous vos offrandes à Dieu? Et troisièmement, quelle motivation vous pousse à donner? L'offrande est-elle une charge pour vous? Ou est-elle un privilège de participer à l'œuvre de Dieu? Le désir de faire une différence en investissant dans le royaume de Dieu? Ou bien est-ce que c'est une bonne action pour calmer ma conscience? Avec quelle motivation je donne? Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui réalise qu'il a tellement reçu que ça vaut la peine de prendre la première chose de sa vie pour investir dans le royaume de Dieu. Et il le compte un privilège de pouvoir participer. Voyez-vous, Jésus n'est pas étranger non plus à la notion d'engagement, à la notion d'offrande sacrificielle. Regardez-le. Contemplons la table ce matin. Il a quitté son ciel pour donner sa vie en rançon pour mes péchés, pour nos péchés. La Bible dit, vous avez été rachetés, non avec de l'or, avec de l'argent ou avec des pierres précieuses, mais avec le sang précieux de Jésus, qui s'est offert à Dieu comme un agneau sans tache, sans défaut. Puissent nos offrandes ressembler à l'offrande du Seigneur. Puissent nos offrandes être des sacrifices de bonne odeur, devant celui qui voit à la fois nos dons, nos sacrifices et nos cœurs. Oh Seigneur mon Dieu, tu as tant fait pour nous. Tu as tout donné, sacrifié pour nous, pour moi. Tel que je suis alors, comme on a chanté juste avant le message, je me donne à toi. Prends mon cœur, prends mon corps, prends mon argent, prends mon or, sois mon trésor. Apprends-moi, Seigneur, comme avec mes frères et mes sœurs, de te placer en premier, de chercher ton royaume en premier, et ça l'inclut aussi à travers mes offrandes, sachant que ça ne sera pas perdu, sachant d'une part que c'est un investissement, c'est un privilège, et sachant que ta promesse est